Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du mercredi 10 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Le Togo fixe au 29 avril les élections législatives et régionales reportées, indique un communiqué de la présidence publié hier. Au Sénégal, le président ordonne un vaste état des lieux économiques. Des coupures d'électricité récurrentes à Ouagadougou.
Donc c'est vraiment pas facile. On est ici, ça va pas. Le travail, on peut même plus travailler. Le courant, ça peut couper toute une journée.
Le président de transition gabonais en visite en Côte d'Ivoire du 11 au 13 avril en RDC. Les rebelles du M23 ne sont pas loin de la ville de Goma.
La plupart des citoyens de Massissi, précisément de Sake, se sont déplacés vers Goma. Et il y a des tirs de bombes.
Le président Biden critique l'erreur du gouvernement Netanyahou à Gaza. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le Togo a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril, a annoncé la présidence dans un communiqué publié hier mardi. Le scrutin devait avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement togolais les avait reportés pour mener des consultations sur la nouvelle constitution, considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir plus longtemps. Des dirigeants d'opposition ont appelé le gouvernement à revenir sur sa réforme de la constitution qui permet à l'Assemblée nationale d'élire directement le président sans débat. Les partis d'opposition n'ont pas réagi dans l'immédiat au sujet de cette nouvelle date. Plus tôt mardi, le gouvernement a interdit des manifestations à l'appel de partis d'opposition contre le report de ces élections. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a demandé hier mardi à son premier ministre Ousmane Sonko de procéder à une revue générale des programmes et projets, de dresser la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenaires et des partenariats publics-privés, indique un communiqué publié après le premier conseil des ministres du nouveau pouvoir. Monsieur Faye a par ailleurs demandé au gouvernement de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024 le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés suivant son programme de rupture. En Côte d'Ivoire, les autorités annoncent que le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, effectuera une visite à Abidjan du jeudi au samedi. Claire Morejibour.
Cette visite de travail et d'amitié, comme l'a précisé le ministère ivoirien des Affaires étrangères, aura lieu du jeudi 11 au samedi 13 avril. Le général Oligui Nguema sera reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara jeudi en début d'après-midi, précise le ministère dans son communiqué. Le général Brice Oligui Nguema rencontrera également la diaspora gabonaise et visitera le Centre national de recherche agronomique avant de repartir samedi. Le général Oligui Nguema a pris le pouvoir le 30 août 2023 lors d'un putsch où il a renversé le président Ali Bongo, dont la famille était au pouvoir depuis 55 ans. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections dans un délai qu'il a plus tard fixé à 2 ans. Depuis sa prise de pouvoir, le général Oligui Nguema a déjà rencontré Alassane Ouattara en novembre 2023 lors du sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma sera finalement candidat aux élections législatives après qu'un tribunal électoral a annulé son exclusion du scrutin lié à une condamnation à la prison en 2021. Les Sud-Africains voteront le 29 mai pour renouveler leur parlement qui désignera ensuite le prochain président. Au Soudan du Sud, la commission électorale annonce que les opérations d'inscription sur les listes électorales pour les scrutins prévus en décembre débuteront en juin, assurant que les élections auront lieu malgré les incertitudes qui persistent quant à leur organisation. Rosine Mounezer.
Ces élections, prévues dans le cadre d'un accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans de guerre civile entre les rivaux Salva Kiir et Riek Machar, ont été reportées à plusieurs reprises. Acteurs politiques et sociaux sud-soudanais et partenaires internationaux restent sceptiques sur la possibilité de les organiser à la nouvelle échéance fixée en décembre, car aucun consensus n'existe entre messieurs Kir et Machar sur la tenue de ces élections, ni sur la nature du ou des scrutins à organiser, notamment présidentielles, législatives et élections des gouverneurs. La commission électorale a précisé dans un communiqué que le Conseil des ministres avait approuvé en février un budget total pour l'organisation des élections de 253 milliards de livres sud-soudanais, environ 215 millions d'euros à la date de février, qui doit être voté très prochainement par le Parlement. Elle ajoute avoir reçu le 2 avril une avance de 22 milliards de livres sud-soudanais sur ce budget, soit 13 millions d'euros. En décembre dernier, le représentant spécial de l'ONU au Soudan du Sud, Nicolas Haysom, estimait que le pays n'était pas en mesure d'organiser des élections crédibles en décembre 2024. Plusieurs points clés de l'accord de paix de 2018, comme l'unification des forces de sécurité, c'est-à-dire l'intégration des forces pro-Kir et pro-Machar au sein d'une même armée et police, et la rédaction d'une constitution, restent toutefois inachevés.
10 ans après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, le pays fait face à une résurgence des enlèvements de masse. L'anniversaire de cette tristement célèbre attaque de Boko Haram intervient seulement quelques semaines après 2 enlèvements de grande ampleur, l'un dans l'état de Borno, où se situe également la ville de Chibok, et l'autre dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, les parents d'un adolescent qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de 4 élèves dans son lycée en 2021 avec une arme qu'il lui avait offerte ont été eux-mêmes condamnés à une peine de prison pour homicide involontaire. Cette condamnation marque une première dans le pays. Nani Tetalani.
La mère, Jennifer Crumbly, 46 ans, et le père, James Crumbly, 47 ans, ont été condamnés à une peine de 10 à 15 ans de prison pour homicide involontaire pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour empêcher leur fils Ethan de tuer 4 élèves et d'en blesser plusieurs autres. Ce sont des condamnations inédites dans le pays pour des parents devant répondre des faits criminels de leur enfant. On n'attend pas des parents qu'ils soient des devins. Ces verdicts ne sanctionnent pas de mauvais parents, ils confirment les actions répétées ou absence d'action qui auraient pu arrêter une catastrophe imminente, a déclaré Cheryl Matthew, la juge du tribunal de Pontiac dans le Michigan. Lors de son procès, Jennifer Crumbly avait témoigné que son mari avait offert à leur fils un pistolet comme cadeau de Noël, puis elle avait emmené ce dernier à un stand de tir le lendemain. Les enseignants avaient essayé d'attirer l'attention des parents sur leur fils après avoir découvert un dessin alarmant réalisé par l'adolescent. Malgré une convocation au lycée le jour du drame, les parents étaient repartis sans le ramener à la maison. Leur fils, Ethan Crumbly, âgé de 15 ans au moment des faits, avait tué 2 filles et 2 garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé 6 autres élèves et un enseignant le 30 novembre 2021. Jugé comme un adulte, il avait plaidé coupable et condamné en décembre à perpétuité sans possibilité de libération.
L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile a lancé une enquête sur la conception du Boeing 787 Dreamliner et du 777 après des allégations d'un employé de l'avionneur remettant en question la sécurité de la structure de ces avions selon plusieurs sources. Michel Claire-Joseph.
Nous enquêtons de manière approfondie sur tous les signalements, a indiqué le régulateur américain, réagissant à des informations publiées mardi à la mi-journée par le New York Times. Le quotidien américain rapporte qu'un ingénieur de Boeing, employé depuis plus de 10 ans par le constructeur, a contacté la FAA pour signaler que la façon dont sont assemblés les différents tronçons du fuselage du long courrier Dreamliner pouvait affaiblir l'avion dans le temps. L'homme affirme que ces tronçons sont incorrectement attachés ensemble et pourraient se dissocier les uns des autres en plein vol, après avoir effectué des milliers de vols, explique le journal new-yorkais. L'avionneur a rejeté ces accusations, affirmant avoir toute confiance dans le 787 Dreamliner. Les livraisons du 787 ont été suspendues pendant presque 2 ans en 2021-2022 à cause de problèmes opérationnels. Elles ont pu reprendre après le feu vert de la FAA en août 2022.
Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a pressé mardi les États-Unis de débloquer une aide militaire massive à l'Ukraine. Au lendemain d'un rare entretien avec Donald Trump, il s'est refusé à détailler leur conversation, arguant des rendez-vous privés tout en disant avoir discuté avec Donald Trump d'une série de sujets géopolitiques importants, y compris l'avenir de l'OTAN. Le président Joe Biden s'est dit mardi contre la politique menée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza, la qualifiant d'erreur et appelant Israël à conclure un cessez-le-feu. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez ce matin Alexandrine Rolognon dans sa Minute Éco.
La nouvelle monnaie, adossée alors au Zimbabwe, le ZIG, a connu mardi des débuts chaotiques. La plupart des magasins n'acceptant que les dollars américains. L'or du Zimbabwe est officiellement entré en circulation lundi après l'annonce vendredi par la Banque centrale que cette nouvelle monnaie remplaçait le dollar zimbabwéen dont la valeur s'est effondrée l'année écoulée, entraînant une inflation galopante. Avec seulement un week-end pour se préparer, la plupart des banques du pays ont suspendu tout leur système pour organiser la transition vers le ZIG. La Corée du Sud va investir d'ici 2027 près de 7 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. La Corée du Sud entend devenir un leader mondial de la technologie de l'intelligence artificielle et aller au-delà des puces mémoire pour conquérir le futur marché des puces d'IA.
La page des sports ce matin, c'est avec Nanit Etalani. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'équipe nigériane de football des moins de 16 ans, interdite de séjour en Espagne pour disputer un tournoi de l'UEFA.
C'est un coup dur pour le football nigérian. Selon la Fédération nigériane de foot, l'équipe des moins de 16 ans a été empêchée de se rendre en Espagne pour disputer le tournoi de développement de la jeunesse de l'UEFA qui se déroule du 8 au 15 avril. La raison ? Le refus de visa pour les joueurs et les officiels de l'équipe sans aucune justification fournie par les autorités espagnoles. Le Nigeria devait défier la Belgique ce vendredi 12 avril, puis il devait y avoir l'Italie et l'Angleterre au menu du Nigeria.
Et l'ex-coach camerounais Rigobert Song demande du soutien pour son successeur Marc Brice.
Alors que la nomination de Marc Brice comme sélectionneur des Lions Indomptables continue de faire polémique au Cameroun, Alexandre Song a appelé à l'union sacrée, à l'unité, derrière le nouveau technicien belge.
Conflit en RDC, Nanit, les Léopards lancent un fonds d'aide aux victimes de ce qu'ils appellent le génocide en cours au Congo.
Parrainé par le Lorientais Gédéon Kalulu, l'association Je joue pour le Congo a mobilisé des joueurs de clubs européens, notamment de Ligue 1, comme Jordan Lotomba, Jean-Victor Makengo et Samuel Mutusami pour venir en aide aux victimes de la guerre. L'association a mis en place un fonds dans lequel chaque joueur versera 500 euros à des associations humanitaires dans l'est du pays. Ensemble, en mettant en commun nos forces et notre détermination, nous pouvons faire une différence significative et aider à construire un avenir meilleur pour nos frères et sœurs victimes de ces crises, affirme l'association sur son site.
Enfin, enquête pour corruption, Luis Rubiales est convoqué le 29 avril par la justice espagnole.
Déjà menacé de 2 ans et demi de prison dans l'affaire du baiser forcé, l'ex-patron du foot espagnol devra s'expliquer fin avril dans le cadre d'une autre enquête pour cette fois-ci, blanchiment d'argent, corruption commerciale, administration déloyale et appartenance à une organisation criminelle. C'est une affaire liée à des contrats passés par la Fédération espagnole en lien avec la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Celle-ci accueille depuis 2020 les demi-finales et la finale de cette compétition moyennant quelque 40 millions d'euros par an. Luis Rubiales a toujours défendu la légalité de cet accord, assurant que la fédération n'a pas payé, ne paye pas et ne payera pas un seul euro de commission à qui que ce soit pour cet accord.
C'était la page des sports avec Nanit Talani. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En RDC, les rebelles du M23 se rapprochent de Sake, se trouvent à 27 km à l'ouest de Goma. Bien que de nombreux habitants aient fui la cité stratégique, ceux qui sont restés vivent dans une peur intense alors que les bombardements se poursuivent. Eddy Issango a joint à Goma le président de la société civile de bonne gouvernance dans le Nord Kivu, Étienne Kambalé.
Nous sommes la société civile qui essaie un peu de faire le suivi de tout ce qui est en train d'être fait, mais entre autres les déplacements de la population, la plupart des citoyens de Masisi, précisément de Sake, se sont déplacés vers Goma, dans les camps entourant la ville de Goma. Et il y a des tirs de bombes qui proviennent des positions ennemis de FRDC, position de M23 vers les positions de vers les camps de déplacés. Et nous pensons que ça devait être appelé crime de guerre. Ce gars-là devait bénéficier d'une protection spéciale et il serait mieux que les autorités essaient un peu de documenter pour se rassurer que réellement ces bombes proviennent des positions ennemies du M23.
Vous dites que les rebelles ne sont pas encore à Sake, mais nous apprenons qu'ils sont aux alentours. Où sont-ils exactement, précisément aujourd'hui?
Nous pouvons les situer à 3 ou 4 kilomètres de l'agglomération de Sake. Ils n'ont pas encore pris Sake. C'est que la plupart des citoyens ont pensé que c'était important d'appuyer l'armée et qu'on n'entre pas à Sake.
Dans quel état d'esprit vit la population qui est restée et même les déplacés qui ont fui Sake, maintenant que les rebelles sont presque là, sur place?
Nous ne pouvons pas dire que les rebelles sont déjà à Sake. Ça, ils sont loin de Sake. Mais considérant que la population a déjà fui leurs entités et que dans la province du Nord Kivu, il y a au moins 1,5 million de déplacés. Ce qui est inacceptable, c'est que la population qui est habituée à faire l'agriculture, à manger à sa propre faim grâce à l'agriculture, est en train de... Il y a des morts qu'on compte journalièrement à cause de la famine. Ils sont dans une psychose, ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre qui? Fâchés contre ceux-là qui mènent cette guerre.
Maintenant, il y a des engins explosifs non explosés qui sont sur place, qui tuent la population. Comment vit la population par rapport à ces engins qui tombent? Est-ce qu'il y a un encadrement par rapport à cela, une sensibilisation?
Il y a une psychose, il n'y a pas une sensibilisation qui est en train d'être faite. Les efforts doivent être fournis pour que la population soit informée par rapport à cette question. Il n'y a pas beaucoup d'informations quant à cela.
Et la prise en charge des déplacés et des blessés?
La prise en charge des blessés, il y a un hôpital spécialisé qui essaie un peu de soigner, mais c'est seulement les manger qui posent des sérieux problèmes. Il y a beaucoup de mal nourris, beaucoup de gens qui tombent malades dans les camps de déplacés meurent.
Et vous avez des statistiques pour ça?
Par rapport aux morts, au moins 3 ou 4 personnes meurent par jour dans des cas de déplacés qui entourent la ville de Goma.
Étienne Kambalé, président de la société civile Bonne Gouvernance dans le Nord Kivu. Depuis plusieurs jours, le Burkina Faso fait face à des coupures d'électricité récurrentes, plongeant certains quartiers de la capitale dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Cette situation perturbe de nombreuses activités et la Société nationale d'électricité, la SONABED, admet que le pays rencontre des difficultés à répondre à sa demande énergétique. Ces délestages pourraient persister, particulièrement pendant cette période de pointe marquée par des températures élevées. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le quartier Katria de Ouagadougou, ce pressing de fortune est tenu par des jeunes qui cherchent là leur gagne-pain quotidien. Depuis la série de délestages que connaît la capitale burkinabé, rien ne fonctionne ici comme avant. Inoussa Kouraougou, gérant de pressing.
Avec les coupures, là, c'est pas facile. Souvent, les clients viennent se plaindre. D'autres, on les explique, mais ils comprennent. Il y a d'autres aussi, ils ne comprennent pas. Donc, c'est vraiment pas facile. On est ici, ça va pas. Le travail, on ne peut même plus travailler. Le courant, ça peut couper toute une journée. On va s'asseoir ici jusqu'à se relever le lendemain matin à rentrer. Souvent, on vient ici, on travaille la nuit.
Cette couturière partage le même bloc que le pressing. Ces machines à coudre fonctionnent à l'électricité. Même si ce matin, tout semble rentrer dans l'ordre, elle sait que ce n'est pas évident qu'elle ait l'électricité toute cette journée. Laetitia Oubda, la couturière.
Ça fait pitié. Non, on souffre ici. Sinon, c'est pas facile. Il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Si ça coupe comme ça, là, ça peut faire 9 heures de temps, 6 heures, jusqu'à oh là là. Donc, on est découragé. Même si le courant là, vient comme ça, là, tu peux plus travailler. Alors que moi, mes deux machines, là, c'est courant. Souvent, je pédale, je sors, je prends les machines de mes filles, là, même pour pédaler. Sinon, il y a d'autres clients, là, ils vont venir faire parler ici. Nous aussi, on ne veut pas ça.
À la télévision nationale, le patron de la Nationale d'électricité reconnaît que la situation est extrêmement affligeante et difficile. Il affirme qu'il y a un déficit important en matière d'investissement dans le secteur de l'énergie. Souleymane Ouedraogo, directeur général de la Société nationale d'électricité.
Entre 2011 et 2024, la puissance additionnelle demandée par les clients de la Sonabel est estimée à 490, autour de 500 MW. Mm-hmm. Sur cette même durée, les investissements qui ont été réalisés pour accroître la puissance et ont permis de mobiliser du moins 222 MW. Donc nous avons un gap énorme entre les attentes, les besoins de l'économie burkinabé et ce qui a pu être réalisé comme investissement.
Le plus gros fournisseur d'énergie du pays est au Ghana. Cependant, ce fournisseur n'arrive plus à fournir correctement les 200 MW habituels. Ainsi, le Burkina, avec un parc vétuste de la Nationale d'électricité, selon son directeur, compte développer suffisamment d'infrastructures énergétiques à l'interne pour être capable de satisfaire la demande nationale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La pollution de l'air a été désignée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme l'un des principaux problèmes de santé. L'organisation a ajouté que la pollution atmosphérique demeure un danger majeur. Au Kenya, les fumées toxiques provenant des décharges et de la circulation causeraient des problèmes respiratoires, disent les experts. Blanche San.
À la décharge de Dandora à Nairobi, les gens brûlent les déchets pour créer de l'espace. La combustion des déchets libère des gaz toxiques dans l'environnement, des gaz nocifs pour l'homme. Jane Mutoni fait partie de ces personnes qui dépendent de cette montagne de déchets pour subvenir à leurs besoins.
Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes ici. Par exemple, il y a beaucoup de fumée aujourd'hui. Même la respiration est un problème. Et vous ne pouvez même pas voir qui est devant vous à cause de la fumée. Je n'ai nulle part où aller et je n'ai rien d'autre.
L'Organisation mondiale de la santé indique que la pollution intérieure et extérieure coûte la vie à un individu dans le monde toutes les 5 secondes. Dans les rues de Nairobi, les véhicules produisent des gaz d'échappement, des fumées qui déclenchent des problèmes respiratoires. Le docteur Videlis Ndumba, directeur du Centre de recherche sur les maladies respiratoires de l'Institut de recherche médicale du Kenya, affirme que les gouvernements doivent être impliqués pour garantir de bons soins de santé.
Il est fantastique que l'Organisation mondiale de la santé plaide pour l'accès universel à la santé et ait identifié la pollution de l'air comme un facteur majeur de mauvaise santé, mais cela nécessite beaucoup de réglementation et de soutien de la part des gouvernements, donc un engagement investi dans les infrastructures de santé pour essayer de fournir un accès adéquat aux soins aux populations particulièrement pauvres.
Les experts de la santé invitent le gouvernement à investir davantage dans les énergies renouvelables pour réduire la pollution. En créant des normes pour l'entretien des véhicules vieillissants, cela peut réellement améliorer la santé pulmonaire dans les villes du Kenya et d'Afrique, selon Dr Enis Omessa, responsable technique à l'OMS.
La pollution de l'air est causée par les émissions des véhicules qui brûlent des combustibles fossiles provenant également des serres et des ordures. Ces polluants présents dans l'environnement affectent le système respiratoire et le système cardiovasculaire, ce qui peut également entraîner une mort prématurée.
L'OMS plaide en faveur de politiques fortes et audacieuses autour de l'utilisation de carburants et d'énergie propre et de la mise en place de structures et de systèmes pour lutter contre la pollution atmosphérique. Elle appelle également à une réponse multisectorielle pour résoudre ce problème.
Ici aux États-Unis, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de novembre, a déclaré que les lois contre l'avortement devraient continuer à être élaborées par chaque État du pays. Cette position va à l'encontre de certains de ses partisans qui souhaitent une interdiction de l'avortement à l'échelle nationale. Scott Stearns, correspondant de la VOA, fait le point. Récit Jacques Aristide.
La Cour suprême de Floride a approuvé la semaine dernière une loi interdisant l'avortement dans l'État au-delà de 6 semaines de grossesse. Ce qui a amené Donald Trump, donné candidat républicain à la prochaine présidentielle, à dire s'il soutient des membres de son parti qui veulent une interdiction de l'avortement dans tout le pays. Lundi, sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé qu'il revient à chaque État de décider seul dans ce domaine.
Beaucoup d'États auront un nombre différent de semaines. Certains seront plus conservateurs que d'autres, et c'est comme ça. Au bout du compte, c'est la volonté du peuple qui compte.
Les États disposent de ces droits après que la Cour suprême américaine a annulé en 2022 près de 50 ans de protection fédérale en faveur de l'avortement. Dans sa vidéo, Trump a remercié nommément 6 juges, dont les 3 qu'il a nommés, affirmant qu'il était fièrement la personne responsable de la fin des protections fédérales du droit à l'avortement.
Mon point de vue est que maintenant nous avons l'avortement là où tout le monde le voulait d'un point de vue juridique. Les États le détermineront par vote ou par une loi, ou peut-être les deux. Quelle que soit leur décision, elles doivent avoir force de loi. Dans ce cas, la loi de l'État.
Le président Joe Biden a mené une campagne intense en faveur du droit à l'avortement, s'engageant à rétablir les protections fédérales issues de l'affaire Roe contre Wade.
Les amis, si l'Amérique me donne un congrès démocrate, je vous le promets, Kamala et moi rétablirons Roe contre Wade.
Kamala Harris, la colistière et vice-présidente de Biden, fait partie d'une campagne visant à lier Trump à des opinions extrêmes sur l'avortement.
How dare!
Comment ces élus osent-ils croire qu'ils sont mieux placés pour dire aux femmes ce dont elles ont besoin, pour dire aux femmes ce qui est dans leur meilleur intérêt? Nous devons être une nation qui fait confiance aux femmes.
Harris et Biden se concentrent sur les droits reproductifs, car depuis la décision de la Cour suprême américaine, les républicains ont subi des défaites électorales, en l'occurrence lors de référendums dans l'Ohio et le Kansas. En vue du prochain scrutin, Trump veut, semble-t-il, exhorter ses partisans à reconnaître le péril politique consistant à éloigner les modérés sur ce sujet de l'avortement.
Vous devez écouter votre cœur sur cette décision, mais rappelez-vous que vous devez également gagner les élections pour restaurer notre culture et, en fait, pour sauver notre pays, qui est actuellement et très malheureusement un pays en déclin.
La chef de l'un des plus grands mouvements anti-avortement aux États-Unis a déclaré lundi qu'elle était profondément déçue par le manque d'appui de Trump à une interdiction à l'échelle nationale, mais a ajouté que son groupe soutiendrait toujours Trump face à Biden. Thème de discorde lors de cette campagne présidentielle, les droits reproductifs vont continuer à alimenter le débat avec une décision attendue de la Cour suprême sur le renforcement ou non des restrictions quant à l'accès aux médicaments utilisés pour entamer la plupart des avortements médicamenteux.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakis à ce micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation à la console Nachwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, La Plate X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.